Alors, on va retrouver le livre des Actes. La suite de la semaine dernière, quel est le sujet ? On va parler de la persécution. Dans l'histoire des persécutions, les persécutions qui sont les plus dures sont les persécutions qui sont amenées par les autorités, par l'État. Et nos contemporains même comprennent cela, quand il y a un journaliste qui est emprisonné, ou des touristes qui sont accusés faussement. Voilà, il y a toute une mobilisation qui est faite autour d'eux pour qu'ils soient libérés. On pense également aux États-Unis les sans-papiers qui sont poursuivis par la police spéciale pour les expulser des États-Unis, et il y a certainement nombre de situations dramatiques derrière tout cela. Mais c'est particulier d'être persécuté pour sa foi. Et il y a des personnes qui sont emprisonnées pour ça, la porte ouverte à des grandes listes de personnes qui sont persécutés et emprisonnés parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ, parce qu'ils veulent parler simplement de lui. Ils se retrouvent en prison pour de longues années. Il y en a qui sont en prison depuis plus de 20 ans. L'histoire que l'on trouve aujourd'hui dans la Bible est encourageante pour ces personnes-là, tout particulièrement. J'espère qu'elle sera aussi encourageante pour nous. Et c'est une histoire, un récit qui est encourageant, qui a été encourageant, je pense, dans toute l'histoire de l'Église, depuis le temps du Seigneur jusqu'à présent. C'est une histoire vraie. Dans le livre qui est le plus lu, le plus épluché, le plus diffusé dans le monde, la parole de Dieu, la Bible, donc. Le titre pour aujourd'hui, une extraordinaire conversion, ou comment un persécuteur de l'Église de Jésus-Christ est devenu un propagateur de la foi chrétienne. Et donc, on va y avoir trois passages. Donc, c'est Actes chapitre 9, mais on va revenir un petit peu dans Actes 8 pour le contexte. Saul, donc le zélé persécuteur de l'Église de Jésus-Christ, on va faire son portrait. Ensuite, on verra l'extraordinaire rencontre de Saul avec Jésus-Christ et avec son Église. Et on verra enfin que Saul, à la sortie, on pourrait dire, annonce Jésus et qu'il grandit dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, pour commencer, le portrait de Saul, le zélé persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Pour cela, on va revenir un peu en arrière dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 8, les trois premiers versets. Actes chapitre 8, les trois premiers versets. Saul approuvait l'exécution d'Étienne qui avait été lapidé suite à son activité missionnaire, on pourrait dire comme ça, et la vision qu'il avait eue de Jésus-Christ. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les différentes régions de la Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne, le pleurèrent beaucoup, à grand bruit, est-il dit. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Rentrer dans les maisons. Alors on peut imaginer cela, des personnes qui rentrent violemment chez vous et qui vous saisissent et qui vous prennent et qui vous emportent comme ça, d'un moment à l'autre. Tous ces chrétiens devaient vivre avec la peur d'un moment à l'autre Paul et ses aides, les personnes qui sont avec lui, les autorités vont venir défoncer ma porte et m'enlever de là, moi, au milieu de ma maison. Arrachés, hommes et femmes. Arrachés, hommes et femmes. Alors, il précisera chaque fois. Luc, homme et femme. Et c'est important le fait qu'il mentionne les deux. Parce que les femmes aussi, donc on voit qu'elles avaient une position dans l'église primitive qui en faisait des personnes dangereuses. Elles aussi, elles étaient considérées comme diffusant activement la foi en Jésus-Christ. Et on voyait donc que ce n'était pas. Le christianisme naissant n'était pas un nouveau mouvement politique comme les sadducéens, comme les pharisiens, comme les hérodiens, mais c'était quelque chose de beaucoup plus profond qui s'enracinait à l'intérieur même des familles et toute la famille en était impactée, les hommes, les femmes, et il n'est pas dit pour les enfants, mais on le comprend. La foi en Jésus-Christ, si les autorités, si les chrétiens avaient peur des autorités, on peut dire que la foi en Jésus-Christ faisait peur aussi aux autorités chrétiennes à cause de cet ancrage dans les familles même. Arrachés, hommes et femmes. On va lire la suite maintenant, on va venir à Actes chapitre 9. Et on va voir les deux premiers versets pour le contexte de Saul, le persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Verset 1, donc il s'est passé toute cette diffusion de l'Évangile en Judée, qu'on a vu la dernière fois avec Patrick, l'Évangile qui arrive en Samarie et qui va aller jusqu'en Éthiopie via l'unique qui était venu adorer à Jérusalem. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem des partisans de cet enseignement qu'il trouverait, homme ou femme, encore une fois. Saul respirait la menace et le meurtre. Est-ce que c'est à dire que Saul a tué les chrétiens? Je ne le comprends pas comme ça. Il n'avait pas le droit de mettre à mort, mais il avait le droit de les faire conduire en prison. Et là, c'était la justice qui s'occupait d'eux. On peut dire toutefois qu'il aspirait à cela. Il devait avoir en lui un sentiment de haine si puissant qu'il désirait la mort de ces personnes. Il respirait la menace et le meurtre. Pour suivre les disciples de Jésus dans les synagogues, à l'étranger même, est-ce qu'il avait l'impression d'avoir terminé le travail à Jérusalem, d'avoir exterminé tous les chrétiens de Jérusalem? Il faut dire qu'il s'était tous dispersés, nous dit le texte. En tout cas, ça ne lui suffit pas. La Judée ne lui suffit pas. Il veut exterminer le christianisme naissant dans toute la diaspora juive. Et donc, un grand centre se trouvait à Damas et il voulait aller là-bas. Et il y va donc. Voilà le témoignage de l'apôtre pendant cette période de vie. On trouve ça, il en parle en Actes 26, 9 à 11, beaucoup plus tard. Il parle de cette période de sa vie. Je vous lis Actes 26, 9 à 11, quand il donne son témoignage. Moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu d'eux le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Voyons maintenant cette rencontre de ce terrible Saul qui était si craint et si redouté, cette rencontre avec Jésus-Christ, l'extraordinaire rencontre avec de Saul, avec Jésus-Christ et avec son Église. Cet épisode est rapporté 3 fois dans le même livre des Actes, sous différents angles, dans différentes circonstances. Et la conversion de Saul, elle est unique dans le livre des Actes parce que il rencontre Jésus-Christ ressuscité, il lui apparaît. Pour autant, l'Église a un rôle à jouer très actif dans la conversion de Saul. On va voir tout cela. On va le lire en 2 fois, le texte, et on fera un premier bilan à la fin. Donc, première lecture, Acte chapitre 9, versets 3 à 9, première acte, première scène. Comme Saul était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea et il ne but rien du tout. Terrassé par une lumière qui vient du ciel, versets 3 et 4. Cette lumière n'est pas un rayon de soleil qui percerait un nuage, car Saul est le seul à le voir. Et c'est une lumière d'autre part qui l'environne. Et c'est une lumière qui le terrasse, qui le met à terre. Il s'agit, on le comprend, d'une lumière divine. Il s'agit d'une apparition personnelle de Jésus-Christ ressuscité. Peut-être certains d'entre nous ont le désir de voir Jésus. Mais voilà, peut-être il vaut mieux patienter et attendre d'avoir revêtu ce nouveau corps que le Seigneur a promis pour être dans de bonnes conditions pour le voir, hein, le corps de résurrection. Ou bien on peut penser, je ne crois que ce que je vois. Dieu nous donne la possibilité aujourd'hui de voir par la foi et je crois que c'est largement préférable. C'est la bonne façon de voir et de chercher Jésus aujourd'hui que de rechercher une expérience telle que l'apôtre a vécu. Que Saul, il n'était pas encore apôtre à ce moment-là, que Saul a vécu. Interpellé par la voix de Jésus-Christ, en tout cas au verset 4, 2 fois, il est appelé par son nom, Saul, Saul. Celui qui parle connaît Saul et il s'adresse à lui personnellement. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. On va revenir un petit peu là-dessus, un petit peu plus tard. On peut imaginer Saul réalisant tout à coup son complet aveuglement spirituel. Saul savait que ces chrétiens qu'il poursuivait affirmaient que Jésus de Nazareth est ressuscité des morts et qu'il était le Messie. C'était le cœur de leur message. Saul avait entendu le témoignage d'Étienne. Il avait entendu Étienne qui décrivait la vision qu'il a eue de Jésus-Christ assis debout à la droite de la majesté divine. Et c'est ce qui avait valu à Étienne d'être lapidé. Et là, il réalise son, je pense, son complet aveuglement, et son demi-tour est radical. Il ne résiste pas un instant. Et il devient aveugle pour un temps. La dernière chose que Saul a vue, c'est cette immense lumière. Avant, il voyait la lumière du jour, mais il ne voyait pas la gloire de Jésus. Après, il ne voit plus la lumière du jour, mais il a vu la lumière divine. Aveugle pour un temps, mais transformé pour longtemps. Aveugle pour un temps, mais transformé pour longtemps. Lisons la suite maintenant dans notre texte. Versets 9 et 10, Luc 9. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prie. Et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a les pleins pouvoirs de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Le Seigneur appelle Ananias. Et c'est très beau la façon dont Ananias répond immédiatement, « Me voici. » Ananias discute avec Jésus de la mission car il a peur. Il a peur de Saul. Et ce n'est pas péché que de discuter comme ça devant une mission que Dieu veut nous confier. Dans l'ancienne alliance, il y a beaucoup de textes qui relatent que des hommes de Dieu ont négocié en quelque sorte avec Dieu. Abraham en Genèse chapitre 15, Moïse Exode 4, Gédéon dans Jude 6, Samuel 1 Samuel 16, beaucoup ont discuté, beaucoup n'ont pas compris. Ce n'est pas une difficulté pour nous, de nous adresser à Dieu. On l'a vu, on prie, et Dieu est là, il écoute, il voit, il répond. En tout cas, convaincu et rassuré, Ananias obéit sur le champ. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, au roi, aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il peut souffrir. Et Ananias obéit. Saul va être ensuite baptisé. On a vu un exemple de baptême la semaine dernière, deux exemples de baptême la semaine dernière. Et là, nous en avons un troisième. On comprend que Saul est authentiquement converti à Dieu. Il prie, Ananias l'appelle son frère. Nous avons aucun détail cependant sur la façon dont Saul a été baptisé. Combien de temps s'est-il passé entre le moment où Saul a retrouvé la vue et le moment où il a été baptisé? Où est-ce qu'a eu lieu son baptême? Comment le baptême a été fait? Est-ce qu'il y a eu des témoins? On ne sait rien de tout ça. L'important n'est pas là. Saul a été baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Et il est devenu, à ce titre, membre officiel du corps de Christ. Saul est baptisé. Alors avant d'aller plus loin dans le récit, on pourrait regarder, faire un petit bilan de... Il y a deux remarques que je trouve encourageantes pour nous. Jésus-Christ est le Dieu souverain qui s'identifie à son peuple. Vous savez, la mission qu'avait donné Jésus ressuscité à Matthieu 28, 18, on peut l'apprendre par cœur. Hein. Ça fait partie des versets qu'on peut apprendre par cœur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Saul, le terrible persécuteur, a trouvé le Seigneur sur son chemin et il n'a pas résisté. Bien sûr, ce n'était qu'un homme. Tous nos persécuteurs sont sous le contrôle de Jésus. Tous nos persécuteurs. Il y a une très belle expression que Dieu utilise quand il s'adresse à Job. Il dit, en parlant des flots de la mer, « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Tout. L'univers est sous le contrôle absolu d'un Dieu souverain. Pourquoi Saul est-il arrêté là, sur le chemin de Damas? Pourquoi si tard? Pourquoi devait-il y avoir à Jérusalem toutes ces arrestations, toutes ces exécutions, toutes ces tortures? Dieu le sait. Il est souverain, il faut lui faire confiance. L'histoire nous rapporte que c'est la vision que Dieu a donnée à Étienne qui a déclenché la grande persécution, qui a aussi provoqué la dispersion des chrétiens et qui, de facto, a répandu l'évangile en Judée et en Samarie. Pour autant, ici, Jésus dit « Je suis Jésus ». Celui que tu persécutes. Le Seigneur est solidaire avec son peuple. On pourrait dire plus précisément, le Seigneur est uni avec son Église. Il fait corps avec l'Église. Quand on touche un chrétien, on touche à Jésus. C'est un grand honneur que l'on note que d'être enfant de Dieu. Alors non, il ne faut pas avoir peur de la persécution. Dieu est au contrôle de toutes choses et il peut intervenir souverainement quand il veut et comme il veut. Jésus-Christ est le Dieu souverain qui s'identifie à son peuple. N'ayons pas peur de la persécution. Ananias est un bel exemple de chrétien, je trouve, pour nous. Je l'ai dit, c'est peut-être pas l'idéal à vous désirer que de rencontrer Jésus comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas, mais entendre Jésus nous parler comme Ananias l'a entendu s'adresser à lui, ça c'est quelque chose, je pense, qui est un bel exemple pour nous, et nous sommes en train en ce moment de travailler notre vie de prière, et je trouve que cela fait bien écho, une vie de développer une vie d'intimité avec Dieu, où Dieu peut nous parler, un endroit où il peut nous parler. Ananias avait des moments où il pouvait entendre clairement la voix de son Seigneur, qu'il a appelé Ananias. J'ai quelque chose que tu dois faire. Un bel exemple de chrétien pour nous est la réponse d'Ananias. Me voici. Comme le petit Samuel du temps du sacrificateur Élie. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Voyons la suite de notre texte. Saul, donc, va maintenant annoncer Jésus et grandir dans l'Église de Jésus-Christ. Saul resta quelques jours avec les disciples, verset 19-20. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était stupéfait et disait, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? N'est-il pas ici, venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Celui qui persécutait l'Église de Jésus est devenu son promoteur. Un changement radical de situation et quelque chose d'incroyable. Quelle bonne nouvelle pour l'Église de Jésus-Christ. Celui qui était une source de maux est devenu une source d'encouragement. Une source de fortification de la foi. Gloire à Dieu, il fait des choses extraordinaires. Cependant, Saul a encore besoin d'aide. Et Dieu va envoyer Barnabas. Dieu va envoyer Barnabas. Est-ce pour aider Saul à s'intégrer pleinement dans l'Église ou est-ce pour aider l'Église à reconnaître pleinement le nouveau Saul qu'il est maintenant devenu un précieux frère dans la foi. En tout cas, nous avons l'apparition d'une personne où nous avons déjà fait la connaissance au chapitre 4, Barnabas, le fils de consolation, le fils d'encouragement, le fils d'exhortation, un homme précieux. Saul et lui vont devenir les premiers missionnaires de l'Église de Jésus-Christ. Saul a encore besoin d'aide. Dieu va envoyer Barnabas. Saul devient, vous l'avez remarqué, persécuté à son tour. Versets 23, 29. Et de ce côté-là, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, avait averti Jésus dans la chambre haute, Jean 15, 20. Souvenons-nous du chapitre 5, verset 42, où on voyait les apôtres qui ressortaient après avoir été battus par le Sanhédrin. On les voyait, les apôtres, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Pas de miracle de ce côté-là. Saul, de persécuté, de persécuteur, devient persécuté à son tour. Avant de conclure, j'ai pour nous deux dernières applications. Nous qui sommes aussi disciples de Jésus-Christ en 2026. Saul, si vous remarquez bien dans ces derniers passages, Saul a été soumis à l'Église. Il s'est laissé conduire et il deviendra Paul. On voit Saul dans ce texte se faire, passez-moi l'expression, mais il se fait balader d'un côté à l'autre. On le fait sortir de Damas, c'est pas lui, mais c'est organisé par l'Église. Voilà, on te fait sortir de Damas par la muraille, on te met, voilà, tu vas aller à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, on l'amène ici ou là, on le prend en charge, on l'amène voir les apôtres. Et finalement, il est décidé qu'on va l'amener, on va le faire partir au vert. Et puis voilà, on le fait partir à Césarée, et de Césarée, on lui dit maintenant. Il y a trop de problèmes avec toi ici à Jérusalem. Tu vas partir à Tarse. Et Saul ne respecte pas. Il se laisse faire, on dirait. Il est soumis à ses aînés dans la foi. Mais ce Saul que l'on voit ici se laisser conduire par l'Église de Jésus va devenir Paul, le grand apôtre aux païens. La soumission fait grandir. La soumission fait grandir les serviteurs, les servantes de Dieu. C'est ma première. Ça fait la troisième ici, la première là, application. Et une autre, il n'y a pas de si grand péché qui puisse nous retenir de venir à Jésus. Des années plus tard, Paul va rendre un témoignage à son fils spirituel, Timothée, dans une lettre. Et voici ce qu'il lui écrit, 1 Timothée 1, 12, 17, quand il parle de son parcours. 1 Timothée 1, 12, 17. Paul écrit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Et il affirme, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il ajoute, dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir à moi le premier toute sa longanimité, son immense patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Personne ne peut dire ce que j'ai fait est trop grave, dit Paul. Regardez mon exemple. Regardez mon exemple. J'ai obtenu miséricorde. Allez à Jésus-Christ. Allez à lui. Le verset 31 nous servira de conclusion. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Il y a des cycles dans la vie de l'Église. La persécution n'a pas toujours la même intensité. Et là, avec le revirement de Saul, il va venir un temps plus paisible pour l'Église de cette région-là. Elle goûte en quelque sorte un repos bien mérité. En effet, Luc nous fait constater l'avancement du commandement du Seigneur. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on voit trois cases qui sont cochées. Jérusalem, cochée. La Judée, cochée. La Samarie, cochée. Il reste seulement jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est un gros morceau. Il faudra plusieurs autres étapes. Et on sait qu'aujourd'hui encore, ce n'est pas terminé. Nous sommes là, 2000 ans plus tard, dans ce travail. Mais on va découvrir dans les chapitres suivants la suite de l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors pour terminer, je vous propose de chanter un chant qui est le 433. Et puis je vais prier pour chanter ce chant ensemble. Seigneur, quel encouragement de savoir que tu es au contrôle de tout. Et tu as permis ces difficultés dans l'église de Jérusalem pour qu'elle s'éparpille. Tu as donné la foi et le courage à tes disciples. Il y en a qui sont morts dans cette période-là. C'était terrible. Mais tu es le Dieu qui est là. Le Dieu qui contrôle et le Dieu qui met un terme aussi à la persécution quand le moment est venu. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, si les difficultés doivent arriver dans nos vies, dans nos églises, ici, dans notre pays qu'on aime beaucoup. Seigneur, que tout contribue à ta gloire, comme on l'a lu à l'introduction du culte, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alors 433.